Voilà. Je vais peut-être prendre le micro comme ceci. Ah, et c'est pour ça, très bien, parfait. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Je vais avoir un peu de mal d'être assis, hein. Mais je suis obligé parce que vous me filmez autrement. Je fais court debout en me baladant.
Comme vous voulez, hein.
Non, parce que ce sera plus facile pour moi que je sois à côté du PowerPoint. Voilà, ce sera plus facile pour les gens, voilà. Bonjour à tous, d'abord, je suis heureux d'être avec vous. Donc, vous le voyez, je suis de l'Université catholique de Lyon, donc je suis un Lyonnais, voilà. Et je suis prêtre diocésain de Lyon. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais qui va se retrouver quand même pas mal avec ce qu'a donné Marie-Odile. C'est pourquoi je voulais l'entendre en premier ce matin. Et je me disais en finale, et c'est peut-être ce que j'ai retenu, c'est que je me suis rappelé que le siracide identifie la Torah à la sagesse. Et donc c'est peut-être l'aboutissement du poème. Et je me dis, mais comment Maurice Gilbert peut-il avoir une lecture aussi plate? J'aime beaucoup Maurice Gilbert, hein. Surtout qu'il va être lyonnais, puisque j'ai appris qu'il venait à Lyon maintenant, il sera à la rue Salah à Lyon. J'aime beaucoup Maurice Gilbert, que j'ai eu comme prof, sur le siracide précisément, à l'école biblique, il y a quelques années. Donc je vais essayer de vous introduire à une littérature qui est le livre des chroniques. Vous n'avez pas je ne sais pas comment vous seriez, donc vous n'avez pas de documents. En fait, je procède par PowerPoint et j'ai donné sur la clé donc l'intégralité de mon texte. Vous l'aurez en PDF. Vous aurez également le PDF de ce que j'ai fait. Donc le PowerPoint, vous l'aurez en PDF ainsi que l'intégralité de mon texte. Donc soyez très libre des notes, et moi ça me permet d'être très libre par rapport à ce que j'ai écrit. Voilà, et vous suivrez facilement, j'espère. Donc, première diapositive, l'introduction. J'aimerais vous situer le livre des chroniques par rapport à d'autres livres bibliques. Quand vous ouvrez la Bible hébraïque, là j'ai pris l'édition de la Taube, sa dernière édition de 2010, on est frappé de voir que le livre des chroniques, eh bien, ferme l'écriture. C'est le dernier livre de l'écriture. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que le premier mot de l'écriture hébraïque, dans le canon hébreu des écritures, c'est le livre de la Genèse qui ouvre le monde sur l'universel. Puisque Dieu crée l'humain, la dame, à son image, mâle et femelle, Zakar Venekeva. Et la dernière parole du livre de la Bible hébraïque, c'est celle du païen, puisque c'est Cyrus le Perse qui, dans son édit, permet à Israël de reconstruire son identité. Et je trouve très intéressant qu'une Bible comme celle que nous avons en hébreu s'ouvre sur les deux moments universels, la création et le rapport entre le païen Cyrus et le retour d'Israël dans sa terre. Et ça, je trouve important de le signaler, et peut-être que tu pourras en dire un petit mot tout à l'heure, puisque tu vas faire la reprise théologique, mon cher Bernard. Donc, on voit donc ici l'importance du livre des chroniques, c'est la fin du livre de la Torah hébraïque, et il me semble très intéressant que le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, s'achève non pas sur Esdras Néhémie, mais sur les chroniques. Parce que Esdras Néhémie nous donne, en pleine période perse, une identité fermée d'Israël. Puisque ce qui est Israël, c'est uniquement Benjamin et Juda. Le reste, ce sont les ennemis d'Israël. Or, ce n'est pas ce livre qui ferme la Torah, et enfin le Tanakh, la Bible hébraïque, mais un livre qui est le contrepoint du livre de Esdras Néhémie. Bon, je ne vais pas trop me citer, mais il y a un cahier évangile fait par mon ami Pierre Martin Vivier et moi-même sur Esdras, c'est le dernier paru, et vous aurez les quatre livres d'Esdras. Moi, j'ai fait les deux livres canoniques, Esdras Néhémie, et Pierre Martin a fait les deux apocryphes juifs. Et vous verrez, j'insiste là-dessus, sur le programme très fermé du livre des chroniques, non, d'Esdras par rapport aux chroniques. Ce qui est important aussi, je vais vous le montrer, et ça va être mon propos, c'est de montrer que le livre des chroniques va avoir une vision autochtone et non pas exotique. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour lui, la racine d'Israël, elle est dans la génération plus que dans l'histoire de l'Exode. Et vous allez voir que ça va avoir une importance considérable dans la lecture du livre. Mais avant de dire cela, on va situer les chroniques par rapport à une autre œuvre qui lui est parallèle et qui est très différente. On a la chance, avec les chroniques, d'avoir le seul texte, on peut lire en synopse, de l'Ancien Testament. Puisque nous avons l'historiographie deutéronomiste, notamment Samuel Roy, et vous le verrez tout à l'heure dans la seconde partie de mon intervention cet après-midi, je vous ferai lire l'oracle de Nathan dans sa version du livre de Samuel et sa version des chroniques. On fera pareil demain avec le songe de Gabaon, dans la version du livre des rois et dans celle des chroniques. On peut donc voir que, effectivement, les chroniques, le livre des chroniques va faire une histoire différente de l'histoire officielle. L'histoire officielle, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste. Elle s'origine, et là je parle sous ton commandement, parce que tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est plus, elle s'origine d'abord dans une grande réforme entreprise par le roi Josias, autour de 622, qui va être finalement à la fois une œuvre de production littéraire, mais aussi de légitimation. Il s'agit de légitimer le temple de Jérusalem comme l'unique temple pour Israël. Et ça va être le premier jet de ce qu'on va appeler plus tard l'histoire deutéronomique. Et le mythe est un mythe de légitimation monarchique et judéenne. Malheureusement, vous le savez, premier seuil et première rupture, en 586 suivante, il y a l'exil et ce peuple d'Israël va être déporté à Babylone. Et regardez, on va avoir, durant cette période qu'on appelle néo-babylonienne, ce qui est plus juste que période exilique, on va avoir une première réédition ou édition de cette histoire qui tient compte de l'échec. Comment se peut-il que les grandes réformes de Josias ont échoué et que nous sommes en terre d'exil ? Un de mes amis, Raymond Kunzpan, dit que c'est un faire-part de deuil. On prend la mesure de l'échec et on comprend pourquoi nous avons été exilés. Et ça va être la grande clé, c'est le Deutéronome, chapitre 28e, les deux voies. Choisis la vie et non la mort. On a choisi la mort en nous détournant des lois du Seigneur, ce qui nous a conduit dans l'exil. Ce qui a comme conséquence positive que la conversion peut nous faire revenir de l'exil. Mais l'exil est cette grande prise de conscience de l'échec de l'histoire. Et quelque part, nous avons quelque part failli à cette grande histoire. Et depuis le livre de Josias jusqu'au livre des rois, introduit par le Deutéronome, on va voir ce grand faire-part de deuil. Et donc, le lieu qui va être privilégié comme étant le lieu formateur, c'est l'Exode. Dans l'Exode, Dieu nous a donné ses lois et ses coutumes. Et quelque part, l'historiographie deutéronomiste va se bâtir sur le modèle de l'Exode, ce qui va entraîner l'espérance d'un nouvel Exode, un retour d'exil. Troisième diapositive. Au début de l'époque perse, on se rend compte que ce modèle exodique a aussi on pourrait dire ses conséquences, mais également ses défaillances. C'est qu'une part importante des exilés a fait fortune à Babylone et n'a pas du tout envie de revenir. Après tout, ils se sont mariés là-bas, ils ont fait chouche. On a même, puisque c'est toujours important, on a même des tablettes comptables d'une banque qu'on appelle la banque des Mourachous, qui date du 4e siècle ou 5e siècle, et on voit qu'il y a des actionnaires juifs dans cette banque. Vous voyez, ça commence déjà. Donc ça veut dire qu'on s'est enrichi, on n'a pas du tout envie de revenir. Et donc, le grand modèle, ça va être Esdras Néhémie. C'est de bâtir le retour d'exil comme étant un nouvel exode. Parce que pour ces gens-là, le seul vrai Israël, c'est l'Israël qui a été exilé et qui est de retour dans sa terre. Et ce grand modèle, qui va être celui des livres à la fois Deutéronome à deux rois dans l'état final tel qu'on peut l'avoir à partir du 5e siècle, mais aussi repris dans Esdras et Néhémie, c'est de montrer que le vrai Israël, le seul qui est légitime, c'est celui qui a été purifié par l'exil. Le prophète qui va porter cela à son avec le plus d'importance, c'est Ézéchiel. Suivante. Alors là, c'était juste pour vous montrer le grand modèle narratif, mais la suivante, Ézéchiel. Prenez par exemple un texte comme Ézéchiel, chapitre 11e. Regardez, Ézéchiel va opposer les non-exilés aux exilés. Il va opposer ceux qui n'ont pas été exilés, qui habitent encore Jérusalem, et qui disent aux exilés, restez loin d'Adonaï, c'est à nous que le pays a été donné en possession. Et les exilés qui leur répondent par cet oracle de salut, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Adonaï, je vous rassemblerai d'entre les nations, je vous réunirai de tous les pays où vous avez été dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël, Admat Israël. Le seul vrai Israël, pour Ézéchiel, c'est celui qui a été purifié par l'exil, et c'est celui qui, comme les ossements desséchés, sort des tombeaux pour revenir dans sa terre. Et donc, il y a un conflit, regardez, entre deux mythes d'origine, un mythe exodique porté par la Gola babylonienne, les déportés, et un mythe autochtone porté, on va le voir, par le livre des Chroniques, qui est le vrai héritier d'Israël. Ceux qui ont été purifiés par l'exil ou les autres. Et derrière cela, il y a une définition importante d'Israël durant le Second Temple. Faut-il être un peuple ouvert sur les nations ou au contraire un peuple qui va se définir étroitement autour du temple et de son culte? Et ça va être vraiment le grand enjeu de la période. Je ne fais que résumer ce que j'ai écrit et vous aurez tous les données suivante. Regardez, par rapport à ce modèle très étroit, qui est porté notamment par le Deutéronome et les deutéronomistes, lisez par exemple le texte de Deutéronome 7, qui est un texte important sur l'élection, mais être élu, c'est rejeter toutes les autres nations. Être élu, c'est s'extraire du monde des nations et surtout se préserver du monde des nations. On peut dire que l'historiographie sacerdotale, portée par notre groupe d'exilés, les prêtres du Temple, va essayer de concilier la double origine. Prenez par exemple un texte comme Exode, chapitre 6, verset 2, qui est très essentiel. J'ai mis ici, en jaune, le mot que je garde. Dieu, déjà on dit Elohim, ce qui est une manière de situer Dieu dans une certaine universalité. Elohim étant plus universel que Adonai. Dieu adressa la parole à Moïse et lui dit, c'est moi Adonai, ce qui fait allusion bien sûr au dévoilement du nom divin au buisson ardent. Je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, le Dieu des puissances, mais sous mon nom Adonai, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Vous voyez donc que là, on va concilier la double origine, celle à travers les patriarches et celle à travers l'Exode. Mais en même temps, on montre qu'il y a différentes manières de connaître Dieu. Il y a la manière des exilés, Adonai, nom donné à Moïse durant l'Exode, qui est donc une sorte de métaphore de l'exil, mais aussi une autre manière de le connaître et qui est plus universelle, El Shaddai. Et quelque part, ça va permettre d'intégrer Abraham comme père des nations et pas uniquement le seul père d'Israël. Et d'ailleurs, dans le livre, dans les traditions sur Abraham, il y a un texte essentiel, c'est le texte de Genèse chapitre 23, en lequel Abraham se définit comme un émigré parmi les fils de Heth et vivant en paix parmi les fils de Heth, d'ailleurs par l'économie des nations païennes. Mais bien que là, il y a ici une origine très ouverte, par opposition à une origine beaucoup plus fermée, prenez Genèse 24, où Abraham envoie son serviteur Eliezer chercher une fille pour Isaac parmi les clans des Israélites. Ce qui montre bien l'enjeu difficile qu'il y a au retour d'exil entre ces deux mythes d'origine. Et le livre des Chroniques va se situer dans une vision très, très ouverte du peuple d'Israël, définissant Israël comme un peuple certes autochtone, mais ouvert aux nations. Suivante. Donc, je vais d'abord vous montrer la structure du livre des Chroniques. Quand est-il écrit? Vous savez, mettez deux biblistes ensemble, il y a cinq avis différents. Donc, personne n'est capable de dire exactement quand il a été écrit. Si vous le savez, je serais très intéressé. On le situe quand même avec une certaine plausibilité à la fin de l'époque perse, mais peut-être plus au début de l'époque grecque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de conflit avec le monde grec. Mais il y a une vision assez universaliste qui correspond bien au IVe siècle. Donc je situerai l'écriture des chroniques sans doute vers le IVe siècle, avant l'intervention d'Alexandre le Grand, en tout cas avant le conflit avec le monde grec qui ne commence vraiment qu'au IIe siècle. Regardez déjà le texte que, en faisant le jeu de mots entre Sophia et Sophia, montre qu'il n'y a pas encore le conflit, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Maccabée, donc, mais deux siècles plus tard. Donc, on est au début de cette époque grecque, et le milieu porteur de ce livre, c'est essentiellement les chantres du Second Temple. On parlait du Temple, prenez le livre des Chroniques, vous verrez qu'il est ponctué par des refrains psalmiques, notamment « Car éternel est son amour ». La manière qui revient quatre fois dans le livre et qui scande le livre, et quelque part, on est en train de passer progressivement d'un culte du Second Temple, qui est essentiellement sacerdotal, lié au sacrifice, à un culte qui sera beaucoup plus de louanges psalmiques. Raison pour laquelle on va faire de David, non pas un roi, mais un chantre. David est le père de la psalmique. C'est l'époque où on va écrire les intitulés des psaumes, attribuant le psautier en grande partie à David. Et c'est dans cette mouvance-là que les chantres du Second Temple disent « Nous avons David pour père et ancêtre. Vous les prêtres, vous avez Aaron comme ancêtre, mais nous, nous avons David comme ancêtre. » Et donc, quelque part, ils vont se réclamer de David, le chantre, qui met en place les classes lévitiques, qui met en place le culte psalmique avec, regardez, on va le voir dans quelques instants, le retour de l'arche. Et quelque part, on dit notre légitimité, elle est d'être mise en place par David. Dans le livre, d'ailleurs, il y a toujours une expression qui revient en parallèle, la Torah de Moïse et les mitzvot de David. La loi de Moïse et les commandements de David. Et les deux sont coordonnés par un vav, en général par un et. Donc quelque part, il y a deux sources du droit. Il y a la Torah mosaïque et il y a l'ordonnancement liturgique davidique. C'est l'une des lignes de force de ce livre qui l'inscrit pleinement dans la mouvance du Second Temple et dans un milieu porteur. Voilà. Vous voyez, je m'éloigne beaucoup de mon texte. Je travaille les chroniques depuis 83. Vous voyez, ça commence à faire. Suivante. Et j'ai fait ma thèse sur la figure de David dans le livre des chroniques. Voilà. Ben oui, quand même. Comme David était roux avec de beaux yeux, je me suis dit que je ne pouvais faire que ça. Que je suis roux, ça ne se voit plus maintenant, mais j'ai vieilli. Donc, je vais vous montrer que par rapport à Esdras et Néhémie, et surtout par rapport au livre que vous avez, au livre de Samuel Roy, le livre des chroniques va occulter la trace de l'Exode. Non pas que l'Exode, que Moïse n'occupe pas une place importante dans le livre, mais c'est l'Exode comme rupture et comme modèle d'un retour d'exil que le chroniste va bémoliser au profit d'un autre schéma, on va le voir. Et donc, je vais vous le montrer à partir de quatre textes en lesquels le chroniste va considérablement modifier sa source. Suivante. D'une part, on remarque, et là je m'appuie sur plusieurs auteurs, notamment deux auteurs israéliennes, il y a Sarah Yafet. Sarah Yafet, elle a tout écrit sur le chronisme. C'est une des meilleures connaissances. Et quelqu'un qui connaît magnifiquement le livre des chroniques, c'est magnifique. Et puis aussi, Yaira Al-Yamit. D'une part, on s'aperçoit que l'Exode n'apparaît plus dans le livre que comme un jalon temporel du passé. L'Exode ne joue pas un rôle théologique important. Il n'est qu'un rappel d'un jalon passé. Ainsi en est-il, par exemple, on voit dans quelques traces en lesquels le chroniste reprend finalement la source, Samuel Roi, mais l'Exode ne permet que de dater les événements. Deuxième trait, en quatre récits centrés sur le temple, et c'est ça qui est important, l'auteur occulte totalement la référence à l'Exode qui pourtant était présente dans ses sources. Donc, le chroniste lisant l'hypothèse que j'ai, il y a plusieurs hypothèses possibles, mais l'hypothèse que je retiens avec beaucoup de chercheurs, c'est que le chroniste connaît le texte de Esdras, le connaît de Samuel Roi, peut-être dans un état un peu différent du texte massorétique, plus proche d'un texte hébreu qu'on a retrouvé en partie à Qumran, et également dans la substrat de la Septante, mais assez proche quand même pour qu'on puisse faire la comparaison. Donc dans quatre récits, regardez, il va omettre la référence à l'Exode qui pourtant était essentielle dans ses sources. D'abord en 1 Chronique 16 qui est le récit de la conclusion du transfert de l'arche, de David transfère l'arche depuis Kiryat Yéraïm jusqu'à Jérusalem. Ensuite dans 2 Chronique 3, qui va être l'emplacement du temple choisi par le roi Salomon. Et 2 Chroniques 6, c'est la grande prière où le roi Salomon va dédicacer le temple. Et là, l'Exode était présent dans la source, mais il est évacué chez le chroniste. Prenons la première diapositive. Regardez, je vous disais que 1 Chronique 16 faisait de David le père des chantres. Or, on s'aperçoit qu'on a ici un pot-pourri à partir de 3 psaumes, 95, 105, 106, à travers le thème de la louange. Car on va réécrire un psaume à partir d'une écriture antérieure. C'était exactement le travail que tu as fait, Marie-Odile. Je ne sais pas, vous voyez, hein. Donc je tutoie, je ne sais pas, donc on peut aussi m'appeler Philippe et me tutoyer, il n'y a aucun problème. Donc il va réécrire la source pour écrire un poème qui n'est pas dans la source, mais qu'il va réécrire à partir d'une racine qui est halal, célébré et chanté, shir. Ce qui donne ceci, célébrer Adonai, chanter pour lui, chanter à Adonai, célébrer Adonai. Nous sommes donc dans un acte de louange où la liturgie psalmique prend le pas sur la liturgie, on pourrait dire, sacrificielle. Or, regardez le travail de réécriture qu'a fait le chroniste. Suivante. Alors, c'est illisible pour vous, ça le sera sur la diapositive. Du psaume 105, il a retenu l'action de grâce, Yadar, et le mémorial des promesses patriarcales. Par contre, il a omis l'histoire du départ de Joseph en Égypte, le séjour des Hébreux en Égypte, l'exode et la marche du désert. Il n'a gardé que la trace patriarcale. Du psaume 96, il a retenu l'action de grâce, Yadar, l'hymne célébrant la souveraineté de Dieu, créateur et juge opposé à la vanité des idoles, mais il a omis le psaume 13b, le verset 13b, qui était le jugement du monde avec justice et des peuples avec sincérité. Enfin, du psaume 106, il garde la louange Alléluia, l'action de grâce Yadar. Il va omettre tout ce qui est le péché des pères en Égypte et le miracle de la mer, le murmure du désert, l'idolâtrie dans le pays, la colère de Dieu contre son peuple, et il ne garde que l'appel au secours et la bénédiction finale. Il a donc évacué des 3 psaumes, le psaume 105, 87 et 106, tout ce qui concerne l'Exode, il ne garde que les pères et la louange. suivante. Et regardez, là aussi, il modifie légèrement la source, puisqu'il dit ceci, et c'est le cœur du psaume. Souvenez-vous à jamais de son alliance, de la parole engagée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Israël, son serment à Isaac. Il érigea pour Jacob en règle, pour Israël en alliance perpétuelle. Ce qui est important, vous le voyez bien, c'est de signifier que l'alliance est d'abord et avant tout avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'il appelle ici Israël. Et là, il est très très important, il privilégie donc ici vraiment l'alliance patriarcale. Il a occulté vraiment tout ce qui était exotique lié à Moïse. Pour lui, ce qui rend légitime Israël, c'est que l'alliance a été conclue de manière perpétuelle en Abraham. Or, rappelez-vous que Abraham, en lui, seront bénies toutes les familles du sol. Ce qui donne une vision très inclusive de l'alliance, alors même que dans Esdras Néhémie, seul est considéré comme vrai Israël les exilés de retour. Là, en Abraham, tous peuvent trouver leur souffle. Ce qui est vraiment une autre manière de concevoir Israël au retour d'exil. Suivante. Autre texte intéressant, quand vous prenez le livre des rois, on vous situe, rappelez-vous, c'est 1 roi chapitre 3, on vous situe la construction du temple de Salomon qui a lieu 430 ans après le retour d'exil. Je n'ai que 5 minutes. Mon Dieu, c'est affreux. Je suis à peine au début. Mais c'est pas grave. Vous verrez la fin. Je vais faire que ce point-là. Oui, je m'emballe. Voilà. Mais je ne vois même pas le temps passer, moi. Donc, regardez ce que fait le chroniste. Il l'occulte totalement les 430 ans depuis le retour d'Égypte. Par contre, regardez, voici comment il situe le temple. Salomon commença à bâtir la maison de Adonai à Jérusalem, sur le mont Moria, où était apparu à David son père, à l'emplacement que David avait préparé sur l'aire d'Ornan, le Jébuséen. C'est-à-dire qu'il va lier deux scènes, le sacrifice d'Abraham au mont Moria et le choix fait du temple par David. Et donc, quelque part, vous voyez bien que les deux traditions qu'il lit, c'est celle du mont Moria et du mont Silo, mais il a occulté totalement l'allusion à l'Exode, qui pourtant introduisait le livre, la construction du temple dans le livre des rois. Et c'est la première et unique fois de toute la Bible hébraïque où le mont Sion est identifié au mont Moria. C'est-à-dire que le sacrifice d'Abraham s'achève dans le sacrifice qu'on offre dans le temple de Jérusalem. Mais vous voyez qu'il a lié tradition patriarcale et tradition davidique par-delà toute référence à l'Exode. Troisième diapositive. Regardez, alors c'est ça, c'était ce que je vous ai montré, à la mobilité précarité, tant de l'Exode, tant Exode, ligne de rupture, il privilégie un espace-temps qui est une ligne de continuité. Prochaine, regardez. Très intéressant dans sa réécriture très subtile de 1 roi 8, verset 21, l'alliance de Adonai qu'il a conclue avec nos pères lorsqu'il les fit sortir d'Égypte, regardez. Il va simplement écrire l'alliance de Adonai qu'il a conclue avec les fils d'Israël. Il a omis la référence de la sortie d'Égypte. Ce qui montre bien que l'alliance, elle est perpétuelle depuis Abraham jusqu'à nos jours. Et alors, le plus subtil et le plus intéressant, c'est bien sûr, mais pour que vous compreniez ma diapositive, il faut que je lise les quelques versets qu'il a omis du livre des rois. Oh, il sait faire le type, hein. Il est intelligent. Hein. Voici, en 1 roi 8, on lit ceci. C'est la prière de Salomon. « Eux que tu as fait sortir d'Égypte du milieu du creuset de fer », verset 51, et verset 52, on lit « Par le ministère de Moïse, ton serviteur, quand tu as fait sortir nos pères d'Égypte ». Or, regardez, il réécrit complètement le texte en prenant le psaume 132. « Lorsqu'ils pécheront contre toi »,
car il n'y a pas d'homme qui ne pêche. L'irrité contre toi livrera à l'ennemi s'ils revenaient vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où tu les auras amenés captifs. Et s'ils prient en direction du pays que tu leur as donné, que tu as donné à leur père et la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors écoute des cieux, du lieu de ta demeure, leur prière de supplication et fais-leur justice. Pardonne à ton peuple ce par quoi ils ont péché pour toi. Et voici ce qu'il écrit. Et maintenant, debout, Adonai Dieu, pour ton repos, toi et l'arche de ta puissance, que tes prêtres, Adonai Dieu, se revêtent de salut, que tes fidèles se réjouissent de bonheur. Adonai Dieu, ne repousse pas la face de ton loin. Souviens-toi des races des Daouïdes, les œuvres pies de David, ton serviteur. Alors que dans la source des rois, on parlait de l'Exode, là il reprend et paraphrase le psaume 132 qui lit le regard bienveillant de Dieu sur son peuple aux œuvres pies de David. Alors c'est quoi ces races des Daouïdes? C'est le temple dans sa construction. C'est le don du temple et de la liturgie psalmique que Israël a reçu de David. Mais donc, pour le chroniste, l'Exode n'a pas un rôle structurant. Ce qui devient structurant, et je me résume, c'est à la fois l'alliance éternelle en Abraham, mais qui est ouvert à l'universel, et le temple qui actualise, à travers l'œuvre de David, l'œuvre, la promesse accomplie et promise à Abraham.
Vous avez encore 5 minutes.
Très bien. Oui. Voilà. Suivante. Ah, pardon. Non, c'est bon. Voilà. Donc, mon résumé de ce que j'ai dit. Appartenant au milieu lévitique autochtone, donc non parti en Égypte, attaché au culte du temple, en particulier le chant psalmique, le chroniste polémique face à cette théologie sacerdotale, surtout Ézéchiel, Esdras, Néhémie, héritière de la Gola babylonienne, dont certains oracles d'Ézéchiel et des livres d'Esdras et Néhémie sont les plus achevés. L'occultation du modèle exodique n'est pas un refus de la figure mosaïque, mais une tentative de représenter la réalité d'Israël selon un modèle différent. Suivante. Un Israël inclusif, d'après le livre des chroniques, regardez, c'est intéressant de voir que les chroniques s'ouvrent par 9 chapitres de généalogie, ce qui les rend barbants. Quand j'ai dû le traduire pour la Bible de Bayard, j'étais heureux d'arriver au chapitre 10e. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ces chapitres, on a effectivement un rapport à l'universel. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez bien de près ces chapitres, où le chroniste reprend les sources du livre de la Genèse, ou de Josué, ou du livre des Juges, il va inclure des mariages mixtes. Il n'a aucun jugement sur le fait que les pères ont épousé des étrangères. Parce que pour lui, je me résume, ce qui fait le juif, c'est la conversion à Israël. C'est pas d'être un exilé de retour. Et voyez bien que le modèle du chroniste est très très proche du livre de Ruth. Tu évoquais Ruth, et je trouve que c'est très intéressant, parce que Ruth, c'est l'étrangère qui devient matriarche en Israël. Et dans le livre de Ruth, on va dire à la fin, quand on va louer Ruth, on la compare à qui ? À Léa et à Rachel. Or, Léa et Rachel sont les deux femmes qui sont les mères des tribus d'Israël. Et vous voyez bien que Ruth, ce qui fait qu'elle est judéenne, qu'elle est juive, c'est sa recette, c'est sa capacité à se convertir au Dieu d'Israël. Et je pense que dans le modèle prôné par le chroniste, on a ici le modèle de la conversion. Or, regardez le livre des chroniques, quand on parle des rois d'Israël, on parle à la fois de leur péché et de leur capacité à se convertir. J'en prends juste un modèle, Manassé. Manassé, c'est le grand méchant loup dans le livre des rois. Et c'est à cause de lui que Israël va être exilé et même Josias ne peut pas sauver Israël. Dans le livre des chroniques, Manassé, certes, est un grand méchant qui est exilé, mais qui se convertit dans son exil et qui revient converti. C'est-à-dire même le salaud intégral est capable de conversion. Et on peut dire que dans le livre des Chroniques, le thème de la teshuva, de la conversion, est essentiel. Ce qui fait le juif dans sa vérité, c'est cette capacité de revenir. Il n'y a ni bon ni méchant, mais il y a des gens qui peuvent se convertir en bien ou en mal. En cela, il hérite d'Ézéchiel, mais il prend le meilleur d'Ézéchiel et pas le pire d'Ézéchiel, c'est-à-dire l'exclusivisme. Il est un héritier d'Ézéchiel dans le sens de la responsabilité personnelle, mais il ne prend pas Ézéchiel lorsqu'Ézéchiel réserve à l'Israël seul de l'exil la possibilité d'être le vrai Israël. Voilà. Suivante. Voilà. Je voulais juste vous montrer que effectivement, il lit la terre d'Israël et le temple dans ces quatre textes admirables où le mot Eretz Israël apparaît. C'est les seules fois dans toute la Bible hébraïque où Eretz Israël apparaît, et c'est dans les Chroniques. Voici les quatre références, et toutes liées au temple. David ordonna de réunir les résidents, les Gerim, c'est-à-dire y compris les étrangers, qui étaient au pays d'Israël. Vous voyez que les Gerim, le mot guerre, il y a Ezra l'autochtone et guerre le résident étranger. Or, il a aussi sa place dans le temple, dans le pays d'Israël. Pensez au 3e Isaïe également. 2 Chroniques 6, 2 verset 7. Salomon compta tous les résidents qui étaient au pays d'Israël, selon le compte qu'en avait fait David son père. Prenez 2 Chroniques 30, verset 24. 25 est très intéressant. Toute l'assemblée de Juda se réjouit, ainsi que les prêtres et les lévites, et toute l'assemblée de ceux qui étaient venus d'Israël, les résidents venus du pays d'Israël et ceux qui habitaient en Juda. Vous voyez que il y a à la fois les Gerim qui habitent en Israël et ceux qui habitent en Juda. On n'est pas du tout dans la vision de Esdras Néhémie. Et enfin, très intéressant, 2 Chroniques 34, c'est la grande réforme de Josias. Josias abattit les autels. 2 Chroniques 30, c'est la réforme de l'époque de Ézéchias. Josias abattit les autels, les pieux et les statues de bois. Il les fracassa pour les réduire en poussière et tous les autels à encens. Il les trancha dans tout le pays d'Israël, puis il revint à Jérusalem. J'arrive à ma conclusion. Voilà. Non, allez-y, on va à la conclusion. L'ensemble de ces remarques montre l'importance que le chroniste accorde à l'origine autochtone dans le pays même d'Israël via la figure de Jacob Israël, en quoi il s'oppose notamment à un oracle comme Osée 12 qui oppose le méchant ou le Éphraïm pécheur au prophète qui fait monter l'Égypte. Et cela ouvre ainsi un modèle davidico-salomonien dont la construction du temple est l'œuvre principale. La concomitance spatiale établie par l'auteur entre le mont du Temple et le mont Moria joue ici un rôle clé, comme nous l'avons vu. Il est temps à présent de conclure. On y va. Conclusion. Il inscrit dans les attentes d'une population judéenne non exilée et par là marginalisée par rapport aux grands chefs exotiques portés par les milieux réformateurs de la Gola babylonienne, l'histoire corrective du chroniste s'oppose au modèle deutéronomiste de Deutéronome à roi, d'où l'importance du phénomène de reprise qui n'est pas une simple adaptation du récit, mais un vrai travail de réécriture du passé. Je veux dire autrement, le livre des Chroniques est moins une relecture actualisante d'une œuvre passée qu'une tentative impossible à bien des égards d'imposer un autre schéma que nous avons qualifié d'autochtone. Quel fut le devenir d'une telle représentation? Malheureusement, pour le chroniste, l'école sacerdotale, responsable de l'édition finale du Pentateuque, proposa un tout autre modèle en tenant l'impossible harmonie entre les mythes d'origine différente, on l'a vu, généalogie et exotique. L'échec relatif, l'histoire corrective proposée par le chroniste, se mesure d'ailleurs dans sa relecture orthodoxisante par les milieux sacerdotaux, qui est sensible notamment dans l'ensemble 1 Chronique 23 à 26. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Et vous voyez que j'ai un amour fort pour ce livre. Et Jacques, tu pourras peut-être compléter. Voilà. Voilà.
Merci beaucoup. Encore quelques minutes de conseil.